Nous avons maintenant un sujet totalement différent. On va discuter avec Philippe Ducharme, notre chroniqueur scientifique. Bonjour Philippe, comment ça va?
Bonjour, merci François, ça va très bien. Et toi?
Ça va bien, merci. On va passer de la belle carrière d'une grande de la chanson country à des questions plus médicales, plus simples, mais aussi porteuses d'espoir, entre autres, comme quoi la chaleur pourrait aider à contrer l'Alzheimer.
Absolument. Donc, l'Alzheimer, qu'on sait, c'est une maladie neurodégénérative, donc associée avec une perte de mémoire, une perte de capacité cognitive. Au niveau moléculaire, les gens savent habituellement que, on entend ça, en tout cas, c'est souvent que la protéine bêta-amyloïde pose problème. Elle s'accumule dans les neurones du cerveau, puis ça entraîne leur mort. Ce que les gens connaissent moins, par contre, c'est qu'il y en a d'autres molécules, comme la protéine Tau. Donc, la protéine Tau, rapidement, c'est une protéine qui est associée à, on appelle ça des microtubules. Il y en a dans toutes les cellules, mais dans les neurones, c'est donc les microtubules, on peut voir ça comme des rails sur lesquels on peut acheminer du contenu de la cellule à différents endroits de la cellule. Donc, comme des rails de chemin de fer. Et la protéine Tau est attachée à cette
ce convoyeur, oui.
Exactement, voilà. Le problème, c'est, bon, Tau est importante. Évidemment, il faut qu'elle soit aussi activée avec la phosphorylation. Mais quand il y en a trop, c'est là que ça pose un problème. La protéine Tau va décrocher du rail, va s'accumuler, va s'agréger et va finalement se comporter un peu comme la bêta-amyloïde, c'est-à-dire qu'elle va perturber le fonctionnement du neurone, puis évidemment, le neurone va mourir.
Et là, c'est là que la détérioration des facultés cognitives de l'individu va commencer à se manifester. La chaleur est un facteur dans ce processus.
Oui, exactement. C'est ça qui est intéressant de l'étude qui est faite à l'Université de Laval, dirigée par le professeur Emmanuel Panel. Donc, ce qui est fort intéressant, c'est que si on élève de manière modérée la température corporelle du corps, ben on peut contribuer à diminuer la phosphorylation de Tau. Donc, cette phosphorylation-là qui est un peu trop excessive. Ça n'a pas été fait chez les humains. En ce moment, on parle ici d'un modèle animal, donc des souris qui expriment cette protéine-là de manière disproportionnée. Et si on soumet ces souris-là, à des petites séances de sauna.
Ah, on les met dans un sauna, OK.
Ah ouais, c'est ça, exactement. Ou alors qu'on applique au niveau de la peau du menthol. Le menthol, ça crée une sensation de froid, ce qui fait en sorte que le corps répond.
Réagit. On met du menthol parfois aussi quand on a des blessures ou des douleurs musculaires. C'est pas la même chose.
Exactement. Donc, ça fait augmenter, disons, la température corporelle. On parle ici d'une augmentation d'à peu près 1 degré, 1,5 degré Celsius. Mais ça, c'est suffisant, toujours chez les souris, pour montrer qu'il y a une diminution de la phosphorylation de la protéine Tau. Donc, ça laisse entrevoir une cible intéressante pour, disons, contrer une certaine manifestation de l'Alzheimer, qui est l'augmentation de la protéine phosphorylée Tau. Ce n'est pas encore chez l'humain qu'on fait ça, donc je veux terminer ce sujet-là en mettant les gens en garde de ne pas tenter
ne pas
chez
passer
eux.
La soirée au sauna ou de prendre un bain de Vicks Vaporub, là, c'est peut-être pas la meilleure chose.
Non, c'est ça. Faut plutôt se dire qu'il y a d'autres recherches qui seront nécessaires pour valider ça, chez l'humain et voir de quelle façon il faut le mettre.
Ça semble tout de même prometteur parce que c'est un mécanisme assez simple de se dire on augmente la température corporelle. Et ça peut faire quelque chose. Importante nouvelle pour les gens qui souffrent de lésions médulaires.
Oui, tout à fait. Donc, lésions médulaires, on parle ici de lésions de la moelle épinière. On parle ici, en fait, plus précisément de lésions partielles. Donc, a priori, la moelle épinière, son rôle, c'est de transmettre l'information du cerveau aux différentes parties du corps, de l'information sensorielle, de l'information motrice. Je comparais la moelle épinière à, imaginons qu'on tient entre les mains plusieurs câbles électriques et qu'on les enrobe d'une gaine. Donc, cette gaine-là, contenant plein de câbles, peut représenter en quelque sorte la moelle épinière. Si on sectionne une partie de cette gaine-là, donc évidemment, il y aura des câbles qui seront endommagés, qui ne seront plus utilisés. J'ai oublié de mentionner, les câbles ici vont représenter les nerfs.
Donc, qui transmettent l'information du cerveau aux membres et qui nous permettent de bouger.
C'est ça, exactement. Donc, si on sectionne partiellement, bien, ça veut dire aussi qu'il y aura des nerfs, il y aura des câbles qui seront encore intacts, qui ne seront pas endommagés. Et la recherche dont je vais vous parler bien, met à contribution ces câbles-là qui sont pas encore, bien, qui sont toujours viable. En bon état. Donc, c'est la recherche que je vous présente qui est faite par une équipe de recherche à l'Université de Montréal sous la direction de Marina Martinez. Donc, ils ont implanté un dispositif dans le cerveau des rats qui, évidemment, ont des lésions partielles au niveau de la moelle épinière. Ça, ça se concrétise, en fait, par exemple, une patte arrière peut être fonctionnelle alors que l'autre patte arrière...
L'autre est paralysée. D'accord.
Voilà, exactement. Donc, on comprend vite que le rat, si on fait rien, ben, il va avoir beaucoup de difficultés à marcher, à se déplacer. Cependant, le dispositif va permettre, disons, d'une manière assez surprenante, de redonner au rat la possibilité d'utiliser sa patte endommagée, sa patte qui est justement paralysée. Et comment ça fonctionne? C'est que dès que le rat avance une patte, la patte qui est saine, ça envoie un signal, évidemment, au cerveau qui immédiatement est décodé par le dispositif. Et lui, en réponse, ben, il se dit, ben, ça se peut très bien que l'autre patte doive avancer.
Ah oui, oui, si on avance un pied, peut-être que le but de l'exercice, c'est d'avancer l'autre par la suite.
Aimerait suivre, c'est ça. Donc, finalement, le dispositif va donc stimuler le cerveau à envoyer un signal vers la patte endommagée, la patte qui est, disons, paralysée. Mais c'est là où ça se passe, c'est que le cerveau va finalement apprendre à se servir d'autres voies de communication pour envoyer l'information. Donc, si on revient à l'exemple de tantôt où j'avais coupé des câbles, ben j'ai peut-être coupé un câble finalement qui permettait normalement d'activer la patte paralysée. Ben le cerveau, ce qu'il essaie de faire, c'est de trouver un autre chemin pour envoyer l'influx nerveux, donc le signal électrique, vers la patte paralysée. Et donc, essentiellement, ça va fonctionner de cette façon-là. Donc, le cerveau est en train de faire quoi? Il est en train de réapprendre à utiliser d'autres voies de communication. Et ça, c'est tellement surprenant, en fait. C'est-à-dire qu'après quelques semaines seulement de traitement, bien, le rat peut se mettre à marcher pratiquement normalement et il peut même le faire sans que le dispositif soit fonctionnel.
Ce qui veut dire que l'implant aura permis de rééduquer le système nerveux. Et par la suite, l'implant n'est plus nécessaire. La blessure à la moelle épinière demeure. Les nerfs qui ont été sectionnés le sont toujours. Mais la communication est rétablie entre le cerveau et tous les membres.
Exactement. Donc, c'est de cette façon-là dont on y est parvenu. C'est en ce moment à l'essai chez l'animal. Il y a des recherches qui actuellement se font chez l'humain pour tenter de voir si c'est possible de faire la même chose. Les études sont prometteuses. On peut remarquer que des individus avec des lésions partielles peuvent retrouver une capacité à se lever debout ou même peut-être à marcher, mais c'est disons de manière involontaire, donc une marche.
Ah, c'est ça, le signal est envoyé parce qu'un pied a avancé, donc l'autre aussi avance, mais peut-être tout ce que nous voulions, c'était d'avancer un seul pied, pas le deuxième.
Oui, voilà. Peut-être bien. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça ouvre un avenir prometteur pour ce genre de technologie-là. On va souhaiter que ça puisse arriver à terme chez l'humain éventuellement, peut-être d'ici quelques années, qui sait, en études cliniques. Voilà, il y a de l'espoir pour les gens qui, justement, sont atteints d'une lésion partielle de la moelle épinière.
Bravo. Pour terminer, une autre avancée qui origine de Montréal, où on utilise des drogues psychédéliques
pour aider
les personnes qui ont des problèmes de santé mentale.
Voilà, exactement. Donc, l'idée n'est pas nouvelle. Dès les années 60, on s'intéressait un peu à cette possibilité-là. Et là, ça revient dans l'actualité depuis peut-être une dizaine d'années au niveau de l'intérêt scientifique.
On parle de LSD, là. Oui.
Oui.
OK.
On parle pas de petites choses, là. C'est quand même assez sérieux. Des bonnes drogues dures. Ceci dit, on parle ici de microdose. Et puis, ce que l'étude a été faite par une équipe de chercheurs à l'Université McGill, là, sous la direction de Gabriella Gobi. Mais essentiellement, ce sont des souris qui ont été soumises à des petites doses de LSD pendant un certain nombre de jours. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après ce traitement-là, on remarque des effets qui sont comparables à l'utilisation de certains antidépresseurs.
Ah.
Donc, d'où l'idée que ouais, ça pourrait être bon peut-être. Les microdoses de LSD vont jouer particulièrement au niveau des neurones qui produisent de la sérotonine. La sérotonine, c'est un neurotransmetteur qu'on retrouve qui a un rôle à jouer dans la gestion des humeurs.
Oh, bravo. Mais encore une fois, allez pas au coin de la rue pour acheter de l'acide là, puis partir sur une balloune.
Voilà. On est vraiment dans une exploration. Il faut attendre qu'il y ait d'autres recherches. Il faut les amener chez l'humain.
Parfait.
C'est pas demain que ça va se faire. Il faut des permis pour ça aussi.
Ben, merci beaucoup, Philippe. On va se retrouver dans un mois avec d'autres sujets d'actualité scientifique qui peuvent nous aider à sentir l'espoir au bout du tunnel. Ben, merci beaucoup.
Ce sera avec plaisir. Merci à toi.